France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ça commence avec le doute qui s'insinue de façon pernicieuse, des interrogations qui pointent ça et là. Et puis ça devient un tiraillement, un dilemme, une petite douleur insistante, un point de tension à libérer. À la fin, les ingénieurs, les pilotes, les bouchers, les personnes qui travaillent dans le nucléaire, comme Camille Cotin dans le film de Pierre Scholler « Rembrandt », les agriculteurs qui utilisent des pesticides, quittent leur boulot, démissionnent, avec plus ou moins de fracas. Une génération pas si désenchantée que ça, qui a besoin de trouver un sens à son travail et à sa vie. À tel point qu'il existe une plateforme qui s'appelle « Jobs That Make Sense », des boulots qui ont du sens et qui vous aident à trouver un emploi à impact positif. Sur le site, on peut orienter sa recherche d'emploi en fonction de son objectif de développement durable. Par exemple, pas de pauvreté, faim zéro, énergie propre et d'un coût abordable, bonne santé et bien-être, égalité des sexes, éducation de qualité, etc. Parmi les employeurs, il y a plein d'ONG ou d'entreprises solidaires dites à impact positif. C'est pas la révolution, ça peut sembler un brin gadget, mais ce genre de start-up en dit long sur l'état d'esprit de travailleurs et de travailleuses qui veulent désormais autre chose que de l'argent, du confort, surtout quand ils en ont déjà. Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent, ils savent ce dont ils ne veulent plus. Deux exemples tout de suite avec Rémi Dibowski-Douette.
Je m'appelle Anthony Viau, j'ai 49 ans. Je suis originaire de la banlieue ouest parisienne, d'un petit village dans la région de Saint-Germain-en-Laye, petit village qui s'appelle Chavenay. Ma mère était hôtesse de l'air à Air France. Mon père travaillait dans une entreprise de vêtements. C'était une vie confortable, on partait en vacances l'été, on était allé plusieurs fois aux États-Unis. Et puis, à cette époque-là, je commençais déjà à rêver d'être pilote. Il y avait un aérodrome juste à côté du village où j'habitais, une sorte de rêve inaccessible. Mais quand même, il y avait une idée en moi assez précise, puisque je me souviens que j'avais un tableau noir dans ma chambre, et un jour j'avais dessiné les cadrans d'un cockpit d'avion de ligne, et je jouais avec ça, et il y avait tout un imaginaire autour du fait de voler. Donc j'avais ce rêve d'être pilote de ligne, et en même temps, j'étais assez mauvais à l'école, en fait, surtout dans les matières scientifiques, parce que ça ne m'intéressait pas trop, et j'avoue que j'avais pas l'esprit très matheux. Et du coup, un jour, il y a eu un forum des métiers dans mon école, où des pilotes sont venus, pilotes d'Air France, et ils ont dit, il faut faire maths sup pour être pilote de ligne. Et là, j'avais peut-être 16 ans, et mon rêve s'est un peu effondré à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai repris espoir. Mais en attendant, j'ai fait des études de commerce international. Donc quelque part, je rattrapais un peu ce rêve de voyager en abandonnant l'idée d'être moi-même pilote, quoi. Donc j'ai eu le diplôme de commerce international. Et puis parallèlement, mon meilleur ami, en fait son père, s'étonnait que je n'ai pas essayé de voler en aéroclub, puisque c'était ma passion. Et du coup, un jour, j'ai quand même fait un baptême de l'air en planeur à l'âge de 21 ans. Le planeur, c'est vraiment un tout petit cockpit où on est un petit peu serré. Donc on fait corps avec le planeur, avec la machine. Et donc on ressent toutes les sensations du vol. Et là, c'est vraiment un moment que je garderai en tête toute ma vie. Des émotions incroyables, de liberté, de plaisir, quelque chose d'unique aussi, quelque chose que j'avais jamais ressenti et que le commun des mortels ne ressent pas, le fait de voler comme un oiseau. Et finalement, ça a déclenché quelque chose en moi, l'envie d'aller plus loin, d'apprendre à piloter et de ressentir à nouveau ces sensations. Donc après, je me suis inscrit dans cet aéroclub, j'ai pris des cours pour devenir pilote de planeur, et puis je me suis fait plein d'amis là-bas, et finalement, il y avait quelques amis qui passaient en fait les certificats théoriques pour devenir pilote de ligne. Donc je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, finalement, l'espoir n'est pas perdu et je peux peut-être rattraper le coche. Donc à cette époque-là, je vais commencer à travailler dans mon coin, à étudier les livres pour être pilote de ligne théorique. Surtout que je faisais ça en candidat libre. Donc j'étais pas dans une école. Moi, il fallait que j'assimile tout par moi-même. Et donc ça faisait une masse de travail qui était assez énorme. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement déterminé, j'avais tellement envie d'y arriver que finalement, c'était presque pas du travail. C'était juste la voie logique de ce que j'avais envie de faire. Et en 2000, je suis certifié pilote professionnel. Voilà. Donc là, je peux postuler pour un job dans une compagnie aérienne. En 2000, je décroche donc mon premier job dans la compagnie qui s'appelle Hop maintenant, à l'époque qui s'appelait Regional Airlines, sur un avion de 50 places à hélice. Donc c'était un vol entre Toulouse et Milan, où j'étais copilote, donc premier vol avec des passagers à bord. Donc ça a été une sensation incroyable. Je me souviens quand on a pour la première fois mis en route les moteurs, ou les hélices qui commencent à tourner, le bruit des moteurs comme ça, la vibration dans la carlingue, ça a été quelque chose d'incroyable. Et donc ce vol me reste toujours en mémoire, avec donc tout ce qui va avec, l'uniforme, le salaire qui, forcément, même si c'est un salaire de débutant, est déjà pas mal et qui va bien augmenter par la suite. Et puis, au moment où je commence à être un petit peu à l'aise, je postule pour Air France et je passe les sélections d'Air France. Donc, c'est des sélections qui sont assez difficiles, avec des tests psychomoteurs, psychotechniques. C'est pas du tout quelque chose de facile pour entrer à Air France. Et donc, ça se mérite. Donc, finalement, bon, je suis pris à Air France. Et là, c'est quelque chose d'incroyable pour moi parce que ma mère était hôtesse de l'air à Air France. Donc, tout pilote a envie d'être à Air France parce que, on parcourt la planète en entier. On a les couleurs de la France sur la dérive de l'avion, le bleu, blanc, rouge. Donc, il y a vraiment une fierté, en fait, d'appartenir à cette belle compagnie. Et en 2002, je deviens pilote sur Airbus A320, qui est l'Airbus court et moyen courrier d'Air France. Donc là, je me mets à piloter cet avion, à aller partout en Europe, en France, au Maghreb, au Proche-Orient. Là, je réalise mon rêve au quotidien. Je passe à 4 000-5 000 euros, donc c'est un salaire vraiment très confortable. Je suis vraiment hyper heureux dans mon job. C'est un job où on voit le soleil tous les jours, on passe tous les jours au-dessus des nuages, on voyage, on va dans des beaux hôtels. Je rencontre beaucoup de monde, puisque dans l'avion, le travail en équipage fait que c'est hyper riche au niveau relationnel. En 2006, je deviens pilote sur long courrier, donc sur les Airbus A330 et A340, où là, carrément, je parcours le monde entier. Donc je vais au Japon, je vais au Brésil, je vais en Afrique, aux États-Unis. Donc là, le rêve de gamin que j'avais avec mes parents quand je montais dans l'avion pour aller aux États-Unis en vacances, et qu'en rentrant dans l'avion, je regardais par la porte du cockpit tous ces boutons, c'était quelque chose qui paraissait complètement inaccessible. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2018, je postule pour devenir commandant de bord. Et là, je suis une formation pour devenir commandant de bord, qui dure à peu près 3 mois, avec des pilotes instructeurs qui m'apprennent le métier. Et puis à l'issue de ça, je deviens commandant de bord, donc j'avais 3 galons sur mes épaules, et là tout d'un coup, j'en ai 4. Et donc ce qui change, c'est que j'ai la responsabilité de l'avion, j'ai la responsabilité de l'équipage, la responsabilité des passagers, et donc il n'y a plus que le plaisir de piloter, il y a également la charge de toute cette responsabilité. Donc je vis un peu ma meilleure vie, si je puis dire, puisque j'avoisine les 8-10 000 euros par mois. Tout va bien, ma vie est confortable. En 2020, pendant le premier confinement du Covid, tous les vols s'arrêtent et donc moi-même, je suis cloué au sol. et j'arrête de voler, donc j'ai beaucoup de temps. Et un jour, je regarde une vidéo sur Internet, et là, j'ai vraiment un déclic ce jour-là. C'est un événement fondamental pour moi, parce que je comprends la mécanique des gaz à effet de serre, en fait, et le fait qu'ils s'accumulent dans l'atmosphère. Donc, je comprends par une image, qui est l'image de la baignoire, où, comme une baignoire où on a les robinets grands ouverts et où l'eau s'accumule, eh bien là, ces gaz à effet de serre qu'on émet tous les jours dans nos activités, notamment dans l'aviation, restent dans l'atmosphère et ne mettent vraiment très longtemps à disparaître. Et là, je visualise soudain cette baignoire qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit et qui ne se vide quasiment jamais. Et j'ai un déclic, en fait, à ce moment-là, dans ma tête. Je me dis, mais moi, dans mon métier, je fais ça, en fait, je participe à ça. Je participe à faire en sorte que la baignoire se remplisse au quotidien, à chaque fois que je vais travailler. Et je n'avais pas du tout visualisé les choses comme ça, en fait, avant. Et ça commence à poser un problème, en fait, dans ma tête. Je commence, depuis ce jour-là, à avoir un tiraillement intérieur. Et cette sensation va ne faire qu'augmenter avec le temps. Le Covid passe et je reprends les vols, mais avec en toile de fond ces informations que j'ai découvertes pendant cette période où je ne volais pas. Et là, je me rends compte en fait que dans mon activité professionnelle, eh bien, il y a tous ces problèmes qui deviennent concrets en fait. C'est-à-dire que par exemple, sur un vol entre Paris et Santorin en Grèce, eh bien, mon avion va consommer un peu plus de 10 000 litres de carburant. Et je me rends compte que, comme il y a à peu près 100 000 vols par jour, si on multiplie ces 10 000 litres par 100 000 vols, ça fait des quantités de carburant faramineuses et donc de gaz à effet de serre en conséquence. Donc, je prends tout à coup conscience que ce sont des montants, des chiffres incroyables qui me font un peu paniquer intérieurement. Et je prends conscience d'une certaine injustice climatique aussi à laquelle l'aviation participe. Alors cette prise de conscience, elle se traduit par de l'éco-anxiété. Donc qu'est-ce que je ressens en tant que personne éco-anxieuse ? C'est de la tristesse par rapport à la planète, à la vie sur Terre, de la honte aussi, puisque j'ai vraiment l'impression de participer à ça plus que la moyenne de part de mon métier, une certaine peur pour l'avenir et un certain malaise vis-à-vis des générations qui vont nous succéder, et également un certain malaise physique, puisque ça ne se traduit pas trop par un malaise en vol, mais c'est surtout au sol, pendant des périodes où je ne vole pas, où là, je ressens une boule au ventre, je ressens de la tension musculaire. Donc ça se traduit vraiment par un mal-être physique. Au quotidien, tout ça, ça commence à me peser, et je me sens de moins en moins aligné avec mes convictions. Est-ce que je continue en fermant les yeux, ou est-ce que j'arrête ? Donc j'en parle quand même un peu autour de moi, et souvent la réponse c'est « mais de toute façon si tu pars, ça sert à rien parce que tu vas être remplacé instantanément, donc autant continuer ». Mais j'envoie quand même une lettre au PDG d'Air France pour expliquer ce que je ressens. Et finalement, suite à cette lettre, je décide de prendre un congé sabbatique de 2 ans pour réfléchir à tout ça. Et me dire chaque jour, est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie ? Et au bout de ces 2 ans de réflexion, je me dis, mais non, c'est pas possible, je peux pas continuer. Je suis allé trop loin là dans ma prise de conscience. Il faut que je prenne une décision. Est-ce que je reviens dans les avions ? Ou est-ce que je démissionne et je fais autre chose ? Et finalement, je décide de me mettre en accord avec mes convictions, parce que j'estime que c'est, il n'y a que comme ça que je pourrais être heureux. Et donc, je décide de suivre la direction que pointe ma boussole intérieure, qui m'indique une autre voie pour le futur. J'ai démissionné fin 2024. Voilà. Donc maintenant, je suis naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, puisque le fait de ne plus être pilote de ligne, où j'étais basé sur les aéroports parisiens, ça m'a permis aussi d'envisager une vie ailleurs qu'à Paris. Et c'est vrai que la vie en province est un petit peu plus douce qu'à Paris. Donc ça correspond mieux aussi à mes aspirations actuelles qui sont de me rapprocher de la nature.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Mathias Bouffiès, j'ai 33 ans. On est ici dans le Lot-et-Garonne, à peine d'Agenais, là où je vis. Mon histoire, elle a commencé quand j'avais 18 ans. Après le bac, j'ai fait un bac général économique et social. Et je réfléchissais à ce que je voulais faire dans la vie. J'aurais aimé aller à la fac de droit. Malheureusement, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer des logements pour aller sur Bordeaux. Mes parents, ma mère était cuisinière dans des écoles. Mon père, lui, était maçon et il travaillait principalement en intérim. Donc moi, je viens d'un milieu plutôt classe moyenne pauvre, je dirais, où la valeur travail est importante. Moi, j'ai toujours essayé de me sortir moi-même de classe moyenne, on va dire, par le travail et par le sérieux. Voilà, ça a toujours été mon leitmotiv. Donc j'ai tenté de passer le diplôme de sous-officier de gendarmerie à l'époque. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire, j'avoue. Donc j'ai passé le concours que j'ai réussi. Et quand j'ai reçu ma lettre pour partir à l'école, j'ai dit bah non, en fait, j'ai pas envie de partir. À l'époque, j'avais une compagne depuis quelques années et j'avais pas envie de quitter mon pays d'origine, on va dire. Donc il a fallu trouver autre chose. Dans ma famille, la viande, ça a toujours été le plat principal de tous les repas. Même si on n'avait pas beaucoup de moyens, mes parents, tous les dimanches, c'était rôti de bœuf et poulet. Enfin, il y avait, c'était même beaucoup trop de viande. Les fêtes de fin d'année, c'était un banquet pour... on aurait pu manger à 20 personnes sans problème, alors qu'on était que 5. Foie gras, canard, oie, enfin, plein de choses comme ça. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils sont originaires d'Italie, de base. Ils avaient immigré. Ils élevaient des vaches et ils faisaient aussi des pruneaux. Donc je viens aussi de ce milieu de la terre, de l'élevage, et j'avais ancré en moi, on va dire, ces habitudes-là de consommer des produits d'origine animale. Ces repas de viande, de rôti de bœuf, tout ça, c'est des choses qui, nous en termes de goût, on prenait du plaisir à manger ensemble en famille. Donc j'avais moi aussi ancré dans cette image le repas du dimanche en famille avec le rôti sur la table, les frites, la bonne chair. Et c'est quelque chose aussi qui inconsciemment, quand je cherchais un métier, m'a poussé vers la boucherie. Et j'ai trouvé un magasin à l'époque qui était sur Marmande, c'est là où j'habitais. Donc j'ai fait un CAP en apprentissage en fait sur la boucherie. Ici, on est dans le sud-ouest, on a un franc-parler, on a des habitudes. Et en boucherie, ben, c'est x10, j'ai envie de dire. On oublie un petit peu aussi tout ce qui est misogynie. On est dans ce métier-là où on parle un peu crûment rugby. Et très vite, ben, je me suis retrouvé avec les carcasses d'animaux sous les yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais en tant que client, ou rarement en tout cas. Et très vite, j'ai déconnecté l'animal de la carcasse. Pour moi, c'était une matière première. C'était de la viande, voilà, tout simplement. La beauté de ce métier, je le voyais comme ça, c'était d'arriver à une finalité, à avoir dans une barquette ou servir le client directement son rôti ou son escalope, en partant d'une carcasse entière. Mais je ne voyais pas du tout l'animal. Ce métier, je l'ai très vite aimé. On rigolait bien avec les collègues aussi. Moi, j'étais le petit jeune, le nouveau. Et donc, ma première année, je l'ai passée vraiment comme ça. Où je me concentrais sur les choses à apprendre et où je m'intéressais pas plus que ça à d'où venait la viande, de quel éleveur ça venait, où est-ce que ça avait été abattu, ça je m'en intéressais pas vraiment. Donc j'ai passé ma première année, j'ai eu mon CAP, et là j'avais déjà en tête, moi, de vouloir être patron, de vouloir avoir mon entreprise. Donc je suis parti sur un brevet professionnel. Et pour le coup, là on voit concrètement plus de choses autour du simple fait de découper de la viande. Donc on apprend gestion d'entreprise, mais on apprend aussi, on a des notions au niveau de l'élevage, au niveau des races de vaches, on nous montre aussi des vidéos d'abattoirs. Donc là, je commençais à ouvrir un peu plus les yeux, on va dire, sur les choses, même si ce que je voyais était tout beau, tout propre, sans problème. Par exemple, une fois, on m'a montré une vidéo d'abattoir qui se passait au Québec, où on était aux normes d'exigence maximum, avec tout était clean, tout était propre, de la musique pour les animaux. Alors, on voyait pas forcément le moment où l'animal est tué sur le coup, mais on nous disait voilà que tout était comme ça. Et j'avais posé cette question, pourquoi le Québec ? Pourquoi pas une vidéo en France ? Le prof à l'époque m'avait dit, simplement en France, pour filmer, c'est compliqué, les autorisations, mais vous inquiétez pas, c'est pareil. Moi, c'est vrai que je me suis jamais posé de questions après. J'ai dit, je fais confiance. Après tout, je suis que l'élève. Un élève suit ce que dit son maître, on va dire, son professeur. Donc je suis resté sur cette idée-là. Et petit à petit, j'ouvre mon esprit aussi sur mon métier, sur des choses à côté. Et je commence à avoir des infos à droite à gauche. Et je commence à voir des vidéos d'abattoirs, tournées par L214, notamment clandestinement, du coup, parce qu'on n'a pas le droit. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré. Donc là, ça commence à me gêner beaucoup. À cette époque-là, j'ai 23-24 ans. Et j'ai des animaux, j'ai ma maison, ma compagne, j'ai des animaux de compagnie. Et petit à petit, c'est vrai que je me dis, mais mon chien, mon chat, c'est un peu comme mes enfants. Mais à côté, toute la journée, je découpe des animaux qui ont, après tout, aussi un cœur qui bat, des émotions, qui sont pas moins vivants que mon chien, mon chat, etc. Donc, comment je peux trouver normal d'élever pour tuer et consommer tel animal et l'autre le considérer comme mon enfant? Donc, j'ai ce cheminement qui se fait aussi. Et à l'époque, ma sœur est devenue végétalienne depuis un an aussi. Donc, j'ai été le pire type possible avec elle en étant bouché, en ayant une sœur végétalienne à lui sortir tout ce qu'on peut entendre. Hein. Ah oui, tu crois pas que ta carotte elle pleure ? Je m'amusais à lui mettre sous le nez le morceau de viande, à lui dire oh, regarde comme c'est bon. Quand j'y repense, je me déteste. Mais bon, en discutant aussi avec elle, j'apprends d'autres choses aussi. J'ouvre un peu plus les yeux aussi. Donc je me renseigne un peu plus aussi sur d'où vient la viande que je travaille au quotidien. Et là, je me rends compte que ma viande que je propose aux clients, elle vient d'Irlande, elle vient d'Allemagne, elle vient d'un peu tous les pays. Elle a vachement voyagé. Je me rends compte que c'est des grosses exploitations aussi au niveau de l'élevage. Donc des animaux qui ont peut-être pas vu l'extérieur de leur vie. Des cochons qui sont restés allongés toute leur misérable vie sans pouvoir bouger pour donner naissance à des petits. Et là, je commence vraiment à me dire, je peux plus. Et le point définitif qui m'a fait aussi arrêter ce métier, ça a été ce que je voyais, la quantité qu'on jetait. Il y a un gaspillage de viande énorme. On devait jeter facilement une trentaine de kilos de viande par semaine. C'est au moins 2-3 animaux morts pour rien par mois au niveau d'un seul magasin. Je me dis, mais au niveau national, même mondial, c'est désastreux, parce qu'on ne les consomme pas. J'ai connu des directeurs de magasins qui interdisent aux salariés de prendre, même si ça part à la poubelle. Donc ça, j'ai connu ça. Donc j'ai vu cette façon aussi du commerce, de la grande distribution, ça aussi, ça m'a bien poussé à changer complètement de façon de voir les choses. Un jour, je dis stop. Donc je vais voir à l'époque le directeur du magasin où je suis et je lui dis voilà, je veux changer de métier, je veux arrêter la boucherie. Par contre, j'aime ce que je fais en termes de commerce, contact client, j'aimerais rester quand même dans le magasin. Donc je suis tombé sur quelqu'un qui a été compréhensif. Il me permet de sortir de la boucherie et de travailler dans les rayons. Donc j'accepte de changer de statut, une baisse de salaire aussi, mais ça je l'accepte parce que je peux vraiment plus et je veux vraiment voir d'autres choses. Donc j'apprends petit à petit un autre métier. J'évolue au fur et à mesure. Je deviens responsable de rayon. Je deviens responsable de secteur. Et un jour, on me propose d'épauler le directeur comme directeur adjoint. Et un jour, deuxième déclic dans ma vie, avec, si les gens s'en rappellent, il y avait une promotion sur Nutella, où il y avait des émeutes, parce que je crois que c'était 80% de remis sur les pots. Nous, dans notre petit magasin, ça n'a pas été non plus des bagarres, ça n'est pas venu au même, mais des gens qui se poussaient et qui couraient pour des pots de Nutella. Et je vois ça et je me dis, mais c'est pas possible, l'humain, qu'est-ce qu'on devient? Et je me dis, c'est une catastrophe. Moi, j'avais une dame, je me rappelle, donc il n'y en avait plus. Elle vient me voir, elle me dit, vous en avez plus? Je dis non. Elle me hurle dessus que c'est inadmissible, que normalement on doit fournir. Elle me dit, oui, qu'est-ce que je vais donner à manger à mon enfant pour le goûter? Enfin, on en est là. Et à ce moment-là, je me dis, pareil, faut que je sorte de la grande distribution. C'est un mode de consommation, un mode de commerce qui me convient plus du tout. Je quitte la grande distribution. J'ai la chance d'intégrer la distribution bio. Des magasins qui sont très différents au niveau de la façon de consommer et de proposer les produits aux clients. J'y reste 5 ans et pendant ces 5 années, ça va beaucoup mieux. Je me plais beaucoup dans ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir. Mais j'ai toujours un souci intérieurement qui au début, bon, je ne fais pas trop attention, mais petit à petit, ça prend de plus en plus de place dans le sens où ben, on propose quand même viande, fromage, produits d'origine animale. Et même si c'est bio, même si les conditions d'élevage et peut-être d'abattage, alors je dis peut-être parce que les abattoirs font un peu les deux, sont meilleurs, je me dis ben, que ça reste quand même des animaux derrière. Donc au bout de 5 ans, je me dis j'y arrive plus. Donc je décide de devenir mon patron enfin et d'ouvrir mon magasin. Et je fais quelque chose qui correspond à ce que je suis, du coup je prends du plaisir à faire ce que je fais. Là aujourd'hui, par exemple, je suis allé voir le boucher aussi du village pour échanger sur le commerce et puis bon, on s'entend super bien, il n'y a aucun souci. Il m'envoie des clients, j'envoie des clients aussi. Quand les gens cherchent, je sais comment ils travaillent, surtout, c'est ça qui est important. On ne peut pas être heureux dans la vie, pour moi, hein, si on fait quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui ne correspond pas à ce qu'on pense. Donc forcément, je suis bien psychologiquement, bien physiquement. Aujourd'hui, ça fait 7 ans et demi, même 8 ans que j'ai quitté la grande distribution. Ça fait 11 ans que je suis végétalien. Aujourd'hui, je suis aligné avec ma façon de penser. Et ça, c'est une chose qui fait énormément de bien. Il n'y a pas mieux.
C'était le boucher végé et le pilote éco-anxieux, un reportage de Rémi Dibovski qui doit être réalisé par David Jacubo-Viez. Merci à Anthony Vio et à Mathias Bouffi. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.